Réflexion sur les contes de Perrault par Emmanuel des Essarts. Il était une fois un homme universel et incomplet, précurseur malheureux d'innovations souvent heureuses, romantique avant la préface de Cromwell, critique biographe avant les causeries du lundi, et à ce qu'il y a de moins à sa louange, détracteur des anciens avant l'opérette contemporaine. Et cet homme qui savait beaucoup de choses et qui a concouru à bien des nouveautés utiles n'aurait laissé qu'une mémoire douteuse si, à près de 60 ans, il n'avait eu l'idée d'écrire et de publier des contes de fées. Ce fut le salut de cette renommée compromise par le crime de lèse-antiquité. Les fées, qui sont aussi des déesses, lui ont fait remettre ce péché par les muses. D'ailleurs, celui qui avait pris vaillamment le parti du sexe féminin contre des préaux ne pouvait mourir dans l'impénitence finale du prosaïsme. Un beau jour, cet ennemi des poètes, ami des femmes et des fées, se réveilla poète à son tour par la vertu de ses contes merveilleux. Avant Perrault, la féerie existait sans doute. De l'Inde à la Grèce et de l'Arabie à l'Espagne, elle s'était promenée, voyageuse éternelle, en semant à travers le monde les perles et les diamants. Mais Perrault fut l'heureux homme qui sut imprimer une forme définitive à ses récits épars et vagabonds, œuvre d'artiste et de poète, car il faut être un grand artiste et un véritable poète, pour résumer en soi toutes les forces dispersées dans un genre depuis la suite des siècles. Chose curieuse, ce détracteur des poèmes homériques a été un Homère à sa façon, l'Homère des contes de fées. Ce fut en empruntant le nom de son fils, Perrault d'Armancourt, qu'en 1697, après quelques essais de publication fragmentaire, notre homme fit paraître ses fictions sous le titre collectif « Des contes de ma mère Loi ». La plupart de ses contes sont en prose et en prose charmante, d'une facilité courante et d'un agrément soutenu, quelques-uns en vers et en vers médiocres. Un cependant fait exception, et dans ce rythme agile et malaisé des vers libres, renferme quelques passages qui ne manquent ni d'aisance ni de charme. Je veux parler de Peau d'âne, dont la version en prose n'est qu'une parodie maladroite. Je diviserai les contes en deux parties. D'une part, ceux qui en communiquent des émotions dramatiques, d'autre part, ceux qui suggèrent des rêveries poétiques. Ce sont des comédies et des drames que la Barbe bleue, Peau d'âne, le Petit Pousset, Riquet à la houppe, le Chaboté, ce sont des poèmes que le Chaperon rouge, la Belle au bois dormant, Cendrillon. Quelle pièce toute faite que Peau d'âne, pièce à décor et à costume. Changements à vue et métamorphoses de parure, il n'en faut pas tant pour attirer à toute époque. Ajoutez les contrastes plaisants de ces parures improvisées avec l'affublement de la gardeuse de Dindon et l'antithèse vraiment drôlatique du mépris devant la peau d'Aliboron et des éblouissements vis-à-vis de la robe couleur du soleil. Que de robes en scène! Robe couleur du soleil, disons-nous, robe couleur de lune, robe couleur du temps. Cette toilette, quoique dépassée de nos jours, est riante à l'imagination et riche aux yeux du poète, instructive aussi pour le moraliste, car le moraliste comprend que malgré toutes ses tribulations, Peau d'âne fugitive ne pouvait désespérer. Elle avait tout sauvé puisqu'elle gardait ses robes. Cependant, ses allées et venues sont pénibles et rappellent de plus grands dangers et qui n'a pas une fée pour la soutenir. Peau d'âne, décente et digne, avec un brin de coquetterie, justifie tout autant que Psyché cette maxime du vieil Hésiode « La vertu marche à travers les souffrances ». Elle sert aussi à nous prouver cette haute vérité, le bonheur doit se gagner et se conquérir comme tous les biens de ce monde. Mais à la comparaison, Psyché reste éternellement divine, Peau d'âne n'est que charmante. On se contente pourtant de cette fière et gracieuse héroïne, et volontiers l'on dit avec La Fontaine, « Si Peau d'âne m'était comptée, j'y prendrais un plaisir extrême ». Là où Peau d'âne ne serait qu'une scénette, Barbe bleue figure un petit drame. Voyez le début calme, l'exposition encore rassurante avec un certain mystère, l'intrigue nouée par la remise de la fameuse clé, les péripéties successives de l'indiscrétion, des efforts tentés pour anéantir les traces de la faute, du retour et de la fureur du mari, de l'attente anxieuse où la sœur Anne ne voit rien venir, et enfin le dénouement où le traître est puni par un sauveur providentiel aux applaudissements d'un public soulagé. S'il est vrai que Barbe bleue soit une réminiscence du breton Gilles de Rais, le tueur d'enfants, Perrault l'a bien heureusement accommodé aux exigences du conte de fées, car l'atrocité du type primitif est singulièrement adoucie. Barbe Bleue fait peur, mais ne fait pas horreur. C'est qu'une légère ironie court à travers cette sombre histoire, comme si l'orchestre accompagnait le drame d'une musique railleuse. Remarquez ce ton de malice au commencement, quand le seigneur fait sa cour. Ce n'était que promenade, à ses frais bien entendu, que partie de chasse et de pêche, que danse et festin, si bien que la cadette commença à trouver que le maître du logis n'avait plus la barbe si bleue. Puis, l'ébahissement des amis, l'impatience curieuse de la jeune femme, tout est décrit de main alerte. Même quand le drame se noue, perce la bonhomie ironique, elle se retrouve dans cette formule naïve. Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Il ne règne une véritable intensité de terreur qu'à la fin. La scène où la femme de Barbe Bleue interroge sa sœur est en son genre aussi palpitante que le final de Rodogune. Quand les frères arrivent, on se dit « Enfin, on n'est pas délivré d'un poids plus impérieux » lorsqu'Esther se jette aux pieds du monarque et confond Aman par un coup de théâtre. Mais ce qu'il y a de plus tragique et d'admirablement tragique dans ce conte, c'est l'invention de cette clé enchantée qui, comme une confidente de Barbe Bleue, se refuse à laisser disparaître la tâche dénonciatrice. N'est-il pas étonnant que Perrault se soit rencontré dans cette idée poétique avec le génie qu'il devait le moins soupçonner? Rappelez-vous, Lady Macbeth, nous attendrions-nous à trouver en France, au XVIIe siècle, un Shakespearien, et que ce Shakespearien fût Charles Perrault? Le petit Pousset, le Chaboté, Rick à la houppe, se relient par une idée commune ainsi que les parties de la trilogie antique. Dans ces trois charmantes comédies, l'esprit est représenté luttant et triomphant, vainqueur de la force dans le petit Pousset, de la pauvreté dans le Chaboté, de la laideur dans Riquet. Vous vous rappelez le début du petit Pousset. Il est triste et donne à réfléchir, car il nous montre cette misère extrême des contemporains de Perrault. Le bûcheron famélique du conteur est proche parent du bûcheron de La Fontaine. Le créancier et la corvée lui font d'un malheureux la peinture achevée. Nous rentrons dans la comédie avec l'ogre, encore plus niais que méchant. Parfois, en relisant ce conte, j'ai songé à ces jolis vers de Victor Hugo, où le poète se montre lui-même jeune père improvisant pour son auditoire de fantastiques historiettes, où l'on voit des géants très bêtes vaincus par des nains pleins d'esprit. Cette éternelle opposition du géant et du nain se retrouve aussi bien dans la légende que dans la plus haute poésie, depuis le jour où David tua Goliath. Le petit Pousset n'est pas un David, mais c'est une des plus aimables figures qu'ait revêtue cette idée éternelle de la faiblesse victorieuse. Il est si brave pour ses frères, si ingénieusement héroïque quand il change les couronnes de tête ou qu'il retire les bottes de l'ogre endormi. Disons-le même, il est épique à sa façon, car Pousset chez l'ogre, c'est Ulysse chez Polyphème. Ce contempteur d'Homère, Perrault, a encore ajouté une scolie à un chant de l'Odyssée. Seulement Ulysse ne prend rien à Polyphème, tandis que Pousset débalise l'ogre gentiment. Qu'importe, un ogre est un personnage hors la loi, et sur lequel Pousset ne faisait qu'exercer, selon le code du temps, une confiscation judiciaire. Le Chaboté se présente comme une pure comédie. Pas d'émotion, même tempérée par l'ironie. À peine a-t-on le temps de s'apitoyer sur la détresse du jeune meunier. Son chat fidèle et subtil a si vite fait de relever les affaires. C'est encore une manière d'Ulysse que ce chat fécond entoure. C'est surtout un chat tel que le Moyen-Âge avait représenté cet animal dans les romans de ménagerie, tel que La Fontaine avait peint la bête scélérate. Le mitis, le raton, le romina grobis, prompt, adroit, inépuisable en invention. Admirez ce chat si propice à son maître, ce chat qui permet au fils du meunier de prodiguer les cadeaux sans délier les cordons de la bourse, qu'il habille par un procédé fort expéditif, le cré châtelain encore aux dépens d'un ogre, et enfin, le mari avec la fille du roi. Ce chat ne vous paraît-il pas appartenir à la famille des serviteurs de l'ancienne comédie, ayant des maîtres jeunes et inexpérimentés, volontiers faiseurs de bévues? Fourbe pour le bon motif et d'un dévouement que rien ne rebute, le valet vient tout réparer, et à travers un labyrinthe d'intrigues, conduit son maître à la conquête de l'amour, de la richesse, du bonheur. Ainsi de notre excellent chat, notre maître chat, qui pourrait s'écrier comme Mascari, son frère en souplesse et en fidélité, et l'on verra dessus, inscrit en lettres d'or, « Vivat Mascarillus, furbum imperator !» À propos du chaboté et d'autres récits encore, en voyant le rôle que le conteur fait jouer au monarque si crédule envers le marquis de Carabas, l'on trouverait au besoin la matière d'un chapitre sur la royauté dans les contes de Perrault. Disons en deux mots que ce sont déjà les rois de notre théâtre bouffe et de notre spectacle dans un fauteuil, confiant et débonnaire. On leur fait croire que des vers luisants sont des étoiles, et ils vont à travers la pièce, éternellement contents d'eux-mêmes, majestueux, souriants et dupés. J'arrive à Riquet à la Houppe, où l'esprit livre un duel d'une issue plus incertaine et d'une marche plus laborieuse. Il s'agit, pour l'esprit, de se faire accepter en dépit de la laideur et de toutes les disgrâces de la nature. Et l'esprit produit ce phénomène, opère ce miracle. Il est vrai que le prince devient beau sitôt qu'il est aimé par la princesse. Encore Perrault n'a pas même exigé cette condition pour le triomphe de l'esprit. Quelques-uns assurent que l'amour seul fit cette métamorphose. Je ne veux pas m'arrêter aux souhaits ridicules, aux fées, à Griselidis, vieille histoire mal rajeunie. Je rentrerai dans le domaine féerique avec cette seconde série de contes que j'appellerai poétiques, Le Chaperon rouge, La Belle au bois dormant et Cendrillon. Ces contes me semblent poétiques dans le sens étymologique de ce mot. Ils ont en eux la puissance de création faite pour inspirer le poète et le peintre, ce frère du poète. D'une part, ils exaltent l'imagination en lui présentant des tableaux tout préparés pour la palette. D'autre part, ils éveillent en nous des sensations analogues à celles que produisent certains thèmes des vieux maîtres, Mozart, Haydn, Weber, qui ouvrent à la pensée comme des allées dont on ne voit jamais la fin, emplies d'ombre. Et à certains moments, de brusques échappées de soleil, de blanches visions, de formes fugitives, étincelantes et rapides essaims de l'illusion. Il y a dans ces contes ce que Joubert appelait l'au-delà, et ce qui se retrouve dans toute œuvre et même dans tout vers profondément poétique. La pensée de l'auteur s'augmente de toutes les pensées qu'il suggère, et le poème primitif a créé à l'audition ou à la lecture tout un petit monde de poèmes intérieurs. Qui de nous n'a dépassé la donnée de Perrault quand il voit dans ses souvenirs l'imprudent chaperon rouge errant à travers la forêt et s'arrêtant au vol des papillons, au parfum des fleurs, à la chanson des sources, voire même à la causerie du loup, ignorant du mal et du péril, si crédule, si distrait, si étourdi, mais doué de je ne sais quel charme, sous ses traits, qui ne se figure l'image de l'imprévoyante adolescence, rieuse et rêveuse à la fois, et qui traverse la vie en dansant. La Belle au bois dormant. Ce titre seul éveille les longues rêveries. Imaginez-vous cette forêt impénétrable, ce château plein de faste et de vie, qui n'est plus que le palais du sommeil, toute une cour assoupie, tous ses somptueux vêtements, tous ses satins, tous ses brocarts, tous ses ors, toutes ses moires, autant de courtisans frappés de léthargie, et tout un peuple de pages et de serviteurs, sentinelles immobiles dans leur faction de 100 ans, et des cuisiniers et des marmitons séculaires, et tout endormi jusqu'aux broches pleines de faisan, jusqu'au feu lui-même. Enfin, au milieu de ce silence et de cette quiétude somnolente, une princesse de 16 ans, printemps qui subissait la date d'un hiver, et comme les roses s'épanouissent au souffle du renouveau, cette jeunesse en fleurs, cette beauté d'avril, cette innocence de mai, toutes ces grâces réveillées par la venue du prince charmant. Là encore, la songerie se prolonge en perspectives infinies, et l'on se dit que, pour les belles et bonnes choses de ce monde, il n'est point de sommeil éternel. Art, amour, enthousiasme, génie, liberté, toutes les belles au bois dormant se sont toujours réveillées. Enfin, nous venons à la douce et dolente Cendrillon. Mélancolique amie, assise auprès du foyer où si longtemps elle n'eut pour témoin sympathique et pour consolateur de ses peines que les hôtes de l'âtre, le grillon et la salamandre. Cendrillon, victime résignée, égale à toutes les misères et à toutes les grandeurs. Une fée secourable, un coup de baguette, et voilà Cendrillon métamorphosée. Voilà la citrouille qui devient un carrosse, les souris changées en chevaux pommelés et le rat en cocher, et les lézards en laquais, et les habits d'or et d'argent chamarrés de pierreries, et enfin les petites pantoufles de verre. Puis la vision magique du bal et la permission de minuit. Et tout finit encore par l'amour d'un prince, la vertu glorifiée dans la joie et dans la sérénité, comme pour toutes les plus belles œuvres de l'art. Cette donnée de Cendrillon est délicieuse et hautement morale. Jamais la grâce triste et fière n'a reçu une si éclatante récompense des mains d'un poète. Mais une fois sur la pente de la rêverie, ne vous êtes-vous pas imaginé une suite possible à Cendrillon ? Cendrillon, jeune femme encore, reine enveloppée de splendeur, ayant un jour la fantaisie de faire une visite au séjour de son enfance souffreteuse et s'attendant peut-être à se réjouir davantage de son royal hymen par le contraste avec le passé, mais malgré elle, se laissant surprendre au regret de l'adolescence envolée et jetant, avant de partir, un regard mélancolique sur cette porte de la maison abandonnée où l'ombre de sa jeunesse lui dit adieu. Il est temps que je prenne congé de Perrault. Je voudrais auparavant proclamer l'exquise moralité de ces contes, après avoir mis en lumière leur intime poésie. Chacun de ces contes se dénoue par une victoire du bien sur le mal, de la faiblesse sur la force, de l'intelligence sur la sottise, un triomphe de l'idéal. Idéal en miniature, si vous voulez, mais c'est toujours l'idéal. Enfin, l'honnêteté de l'auteur, sa candeur même, ne se dégage-t-elle pas de manière à nous inspirer la sympathie morale en même temps que la sympathie littéraire ? Je prétends qu'en parlant de cet enchanteur de notre enfance, l'on devrait dire le bon Perrault, comme on dit le bon La Fontaine. Emmanuel des Essarts.